RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Mais comme d'habitude, nous allons commencer notre émission par le journal suivi de commentaires. Et ensuite, vous allez également écouter l'histoire d'aujourd'hui et mon Indonésie, l'arbre suivante, magazine culturel, qui sera continué avec l'Indonésie en couleur. Avant de terminer cette émission, vous allez écouter des chansons indonésiennes. Voilà notre programme pour ce soir. Écoutons maintenant le journal suivi de commentaires.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, voici le journal. Nous commençons avec les titres. Ministère du Tourisme se coopère avec Bitourist pour amener les touristes étrangers en Indonésie. L'Indonésie et les Pays-Bas renforcent la coopération dans les secteurs de la loi et de la sécurité. La France s'intéresse au développement de l'énergie de la biomasse dans le sud de Sumatra. La ministre des Affaires étrangères a rencontré le président pour discuter de la visite d'État. L'Indonésie fournira du gaz à la région asiatique. Voici le journal complet. Bitourist est une communauté de voyagistes qui se coopère avec Founder for Indonesia du ministère du Tourisme pour attirer les touristes étrangers de visiter l'Indonésie, comme affirmé le directeur général de Bitourist, Rehan Patiwail, lors de l'événement de l'Indonésie Heritage Tour à la Vieille Ville à Jakarta Ouest, 18 janvier.
Sebenarnya cukup erat kerjanya karena kita carry along Wonderful Indonesia.
En fait, c'est assez lourd parce que nous transportons Wonderful Indonesia, notre marque. Vous savez qu'il y a Wonderful Indonesia et il y a Pesona Indonesia. Nous travaillons avec Wonderful Indonesia parce que nous sommes le voyagiste en ville basée sur la communauté. Donc, nous sommes le voyagiste en ville qui ne sert que les étrangers. C'est pourquoi j'invite spécialement les étrangers qui vivent ici. Même si possible, ce matin il y avait un touriste qui nous rejoint, le vrai touriste. Il n'est pas resté ici, il n'est resté que quelques jours à Jakarta. Outre de se coopérer avec le ministère du Tourisme, Bitourist coopère aussi avec SoutheastAsia.com pour développer ses produits et être facilement accessible par les touristes étrangers qui veulent venir en Asie ou en Indonésie. Les gouvernements de l'Indonésie et du Royaume des Pays-Bas renforcent la coopération dans le domaine de la loi en renforçant des capacités, la recherche conjointe, la formation et les échanges techniques. L'ambassadeur du Pays-Bas en Indonésie, Rob Swartbol, lors de l'événement Règles de loi d'Indonésie-Pays-Bas et mise à jour de sécurité 2018 à Erasmus Huis, Jakarta, mercredi 17 janvier, a déclaré que les deux pays partagent leurs connaissances en droit matériel et structure juridique parce que l'ADN de la même loi. D'autre côté, les deux pays sont également confrontés à de nouveaux défis communs, tels que la création d'une société inclusive et la réglementation de l'utilisation d'internet et de la technologie.
On the one hand, our two countries share a number of
D'une part, nos deux pays partagent un certain nombre de points communs en matière de droit matériel et de structure juridique. C'est toujours la fortune comme notre ADN juridique commun. D'autre côté, nous finissons des défis similaires. Comment créer des sociétés inclusives? Comment réguler l'utilisation de l'Internet et des médias sociaux? Ou pour lutter contre la cybercriminalité? Comment réguler le dernier changement technologique? Comment lutter contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement, ou comment gérer la pêche illégale? Les deux pays doivent trouver des réponses aux nouveaux défis. Cependant, le chef de la Cour suprême, Mohamed Hatta Ali, a déclaré qu'avec les racines du même système juridique, la collaboration entre l'Indonésie et les Pays-Bas est importante et stratégique. De plus, il a déclaré qu'un partenariat égal entre l'Indonésie et les Pays-Bas devait être fait pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'appareil judiciaire. La France, à travers un institut de recherche, CIRAD, la recherche agricole pour le développement, s'intéresse à l'utilisation de l'énergie, de la biomasse et à l'utilisation des tourbières et des déchets agricoles. Pour réaliser cet intérêt, un institut de recherche agricole français travaillant pour le développement durable des zones tropicales et méditerranéennes, en collaboration avec l'Agence indonésienne pour la restauration des tourbières, BRG, et le gouvernement provincial de Sumatra du Sud, ont convenu d'établir une coopération. Le chercheur senior de CIRAD, Jean-Marc Roda, et le chef du BRG, Nazir Fouad, ont rencontré le gouverneur du sud de Sumatra, Alex Nourdin, à Gria Agung, jeudi 18 janvier. Lors de cette réunion, Jean-Marc Roda a expliqué « CIRAD a mené des recherches sur l'utilisation potentielle de l'énergie de la biomasse pendant 4 ans au sud de Sumatra. » Par ailleurs, le gouverneur Alex Nourdin a déclaré que le gouvernement provincial de Sumatra Sud a bien accepté l'utilisation de l'énergie de biomasse, compte tenu Sumatra Sud possède les tourbières près de 1,4 million d'hectares, dont la plupart n'est pas encore utilisée en optimum. Alex Nourdin estime que la coopération avec les instituts de recherche français apportera de nombreux avantages tant dans les efforts de restauration des tourbières que dans l'amélioration du bien-être des agriculteurs dans le sud de Sumatra. La ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré le président Joko Widodo pour discuter des visites d'État dans 5 pays d'Asie du Sud. Selon le projet, le président se rendra à 5 pays la semaine prochaine. Retno Marsudi, au palais présidentiel à Jakarta, a annoncé « Ces pays sont Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan. » Selon elle, la mission qui sera apportée de chaque visite s'est concentrée sur les efforts visant à accroître la coopération bilatérale dans le domaine de l'économie. Retno a affirmé une grande population de certains pays à visiter tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh pourrait être l'occasion pour l'Indonésie pour renforcer la coopération dans le domaine de l'économie. Retno Marsudi a ajouté, lors de son séjour en Inde, le président Joko Widodo assistera également au sommet Inde-ASEAN à New Delhi et a aussi reçu une invitation à assister à la commémoration de la journée constitutionnelle de l'Inde. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de Pertamina Persero Société Anonyme, a le projet de verser 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié aux deux pays d'Asie du Sud, à savoir le Pakistan et le Bangladesh. Cette décision sera discutée plus détaillée lorsque le président Joko Widodo fera une visite de travail à ces pays dans un proche avenir. Le vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales Archandra Tahar à Jakarta mercredi a expliqué que chaque pays réserverait l'approvisionnement du gaz naturel liquéfié de Pertamina d'environ 1 à 1,5 million de tonnes par an avec une valeur estimée à 6 milliards de dollars américains. Le contrat d'engagement entre Pertamina avec les deux pays durera 10 ans. Comme cité d'Antara, la politique d'exportation est une continuation de l'accord de mémorandum d'accord signé entre Pertamina et les deux pays. Cher ami, c'était le journal.
Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre, la crise reprend en Tunisie. À la fin de 2010, une vague de révolution sous la forme de manifestations et de protestations pour le changement de gouvernement, pacifiquement ou non, a frappé certains pays du Moyen-Orient et d'Afrique. L'événement connu sous le nom de Printemps arabe est né en Tunisie précisément le 17 décembre 2010. Quelques jours plus tard, en 2011, le gouvernement tunisien dirigé par Zine El Abidine Ben Ali s'est effondré. La Tunisie a également connu sur les transitions les plus démocratiques et les changements politiques par rapport aux autres pays arabes, qui ont ensuite été touchés par le printemps arabe. À ce moment-là, le régime du pouvoir a été renversé sans effusion de sang et sans guerre civile. Mais ce qui s'est passé en Tunisie la semaine dernière, lors de la commémoration de la chute du régime de Ben Ali il y a 7 ans, a été une manifestation de masse contre les hausses de prix et de taxes. Avant cette manifestation, un manifestant a été tué lundi le 8 janvier. Les troubles ont incité le gouvernement à envoyer des troupes dans plusieurs régions de Tunisie et ont arrêté près de 800 personnes, y compris des dirigeants de l'opposition. L'acte de protestation a eu lieu lorsque le gouvernement tunisien a annoncé et fourni un cadeau de nouvel an sous forme de réajustement du prix de carburant et de certains biens de consommation à partir du 1er janvier 2018. De plus, certains types de taxes et tarifs comme la taxe du car, les tarifs de téléphone et d'internet ont également augmenté. Après la manifestation, le gouvernement tunisien a également proposé un programme de réforme sociale qui était soumis au Parlement sous la forme de réforme des soins médicaux, de logements et d'assistance aux pauvres. Jusqu'à présent, les programmes gouvernementaux n'ont pas été en mesure de surmonter le chômage et la pauvreté, y compris incapables de restaurer l'industrie du tourisme, après avoir été frappés par des attaques terroristes contre des touristes étrangers il y a 3 ans. Le premier ministre tunisien Youssef Chahut essaie de convaincre ses citoyens qu'en 2008 est la dernière année de troubles dans le pays. Mais il semble que l'opposition tunisienne soit insatisfaite des programmes offerts et demande instamment d'organiser une manifestation contre le gouvernement. L'escalade de la violence en Tunisie qui a connu une transition pacifique est alarmante. Le gouvernement tunisien et l'opposition devraient négocier une solution pacifique. Résoudre le problème de la tradition tunisienne, tel que le renversement du régime de Ben Ali il y a 7 ans, devrait être mené dans le but d'éviter la violence, telle que l'effusion de sang qui pourrait faire des victimes. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'internet sur www.voi.co.id. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 19 janvier. Le 19 janvier 1966, Indira Gandhi est devenue première ministre. Indira a été première ministre de l'Inde pour la période du 19 janvier 1966 au 24 mars 1977 et a continué le 14 janvier 1980 jusqu'à sa mort. En tant que fille du premier ministre indien Jawaharlal Nehru et la mère de Rajiv Gandhi, Indira Gandhi était une femme tumultueuse et très controversée à la tête du parti politique en Inde. Le 19 janvier 1966, elle a été élue présidente du parti du Congrès, remplaçant Lal Bahadur Shastri. Indira a été tuée le 31 octobre 1984 dans un acte de terreur par deux gardes du corps qui ont embrassé le sikhisme. L'action a été déclenchée par ses instructions qui ont ordonné aux troupes d'attaquer le temple d'or à Punjab, le quartier général de disciples de Sikh qui voulaient Punjab comme leur pays. Le 19 janvier 1969, un étudiant tchécoslovaque, Jan Palach, s'est brûlé pour protester contre l'invasion des troupes soviétiques et du pacte de Varsovie dans son pays. L'Union soviétique envahit la Tchécoslovaquie en août 1968 pour écraser le mouvement de réforme démocratique connu sous le nom de Printemps de Prague. À cette époque, le gouvernement d'Alexander Dubček a réformé la démocratie et la suprématie civile. Dubček a mis en œuvre la libéralisation du parti, le retour des troupes dans les casernes et la création du socialisme à visage humain. Ce n'est pas aimé par Moscou. Un groupe d'étudiants tchèques, y compris Palach, a fait un pacte de suicide pour se sacrifier en signe de protestation contre l'invasion. Palach fut le premier à s'immoler au quartier Wenceslas. En raison de cette auto-immolation, Jan Palach est célèbre et son nom est le nom du quartier au centre de Prague, le nom du carré, le nom de la rue dans plusieurs villes du monde. En outre, le nom Palach est devenu le nom du plus ancien club de pierre en Croatie, le nom du terminal d'autobus dans la ville de Kurpip, Maurice, et le nom d'une chambre des étudiants à Venise, en Italie. Le 19 janvier 1979, la manifestation contre Premier ministre Bakhtiar. Le 19 janvier 1979, le peuple iranien a de nouveau organisé une manifestation massive contre le gouvernement du Premier ministre Shapur Bakhtiar. Cette manifestation s'est produite à l'époque de la révolution islamique en Iran pour s'opposer au régime Shah Pahlavi. Imam Khomeini, de son exil à Paris, a transmis au peuple iranien un message selon lequel il retournera bientôt en Iran et se battra aux côtés du peuple iranien pour défendre l'indépendance et la liberté en Iran. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles, et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésia, Service international, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Indonésiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Serviteurs, bonsoir. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter mon Indonésie et pour le titre Indonésie-Chine continue des relations commerciales et d'investissement. En plus de transmettre les lettres de créance au gouvernement de la République d'Indonésie, les 9 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires renforcent également la coopération avec l'Indonésie dans divers domaines. L'an 2, la Chine augmentera la coopération dans le domaine de l'économie. On le sait que mercredi, les 9 ambassadeurs ont transmis les lettres de créance au président Joko Widodo au palais présidentiel à Jakarta. Ils ont, entre autres, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Biélorussie en Indonésie, Valery Kolesnik, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Vatican, Saint-Siège, en Indonésie, l'archevêque Piero Piopo et l'ambassadeur de LWP palestinien en Indonésie, Zuhair Al-Shun, et l'ambassadeur de LWP de la Chine en Indonésie, Xiao Xian, et l'ambassadeur de LWP Sud-Afrique en Indonésie, Hilton Fisher. Après la cérémonie de réception de lettres de créance au palais présidentiel de Jakarta, mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que non seulement les relations bilatérales dans le domaine du commerce, le domaine touristique ont augmenté aussi. Les visites des touristes de la Chine en Indonésie.
Secara bilateral misalnya di dalam perdagangan memang kemajuannya sangat
en bilateral par exemple dans le domaine du commerce le progrès est très grand. Les chiffres apportés par l'ambassadeur chinois pour 2017, notre chiffre d'affaires est déjà atteint 66 milliards de dollars américains. L'investissement chinois est également le troisième plus grand investisseur et pour les touristes a atteint 2 millions pour l'année dernière. Selon la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, la Chine a également apprécié le leadership de l'Indonésie qui pourrait apporter la paix dans le monde. Retno Marsudi a déclaré que le président Joko Widodo a souligné l'importance d'une coopération économique mutuellement bénéfique. Le président a discuté des efforts visant à renforcer la coopération commerciale et d'investissement parce que l'Afrique est une priorité du marché non traditionnel de l'Indonésie. Selon Retno Marsudi, la coopération d'Indonésie avec l'Afrique sera renforcée par la mise en place du Forum Indonésie-Afrique en 2018, alors qu'avec l'ambassadeur de LWP au Yémen, Abdul Ghani Nasser Ali Al-Shamiri, le président a discuté de la coopération de l'aide humanitaire en mettant en place un hôpital mobile. Serviteur, c'était mon Indonésie pour ce soir.
BeTourist est une communauté de voyageurs qui se coopère avec Founder for Indonesia du ministère du Tourisme pour attirer les touristes étrangers de visiter l'Indonésie. Comme affirmé le directeur général de BeTourist, Rehan Patiwail, lors de l'événement de l'Indonésie Heritage Tour à la Vieille Ville à Jakarta Ouest, 18 janvier.
Sebenarnya cukup erat kerjanya karena kita carry long wonderful Indonesia.
C'est assez lourd parce que nous transportons Wonderful Indonesia, notre marque. Vous savez qu'il y a Wonderful Indonesia et il y a Pesona Indonesia. Nous travaillons avec Wonderful Indonesia parce que nous sommes le voyagiste en ville basée sur la communauté. Donc, nous sommes le voyagiste en ville qui ne sert que les étrangers. C'est pourquoi j'invite spécialement les étrangers qui vivent ici. Même si possible, ce matin, il y avait un touriste qui nous rejoint, le vrai touriste. Il n'est pas resté ici, il n'est resté que quelques jours à Jakarta. Outre de se coopérer avec le ministère du Tourisme, Bitourist coopère aussi avec SoutheastAsia.com pour développer ses produits et être facilement accessible par les touristes étrangers qui veulent venir en Asie ou en Indonésie. Les gouvernements de l'Indonésie et du Royaume des Pays-Bas renforcent la coopération dans le domaine de la loi en renforçant des capacités, la recherche conjointe, la formation et les échanges techniques. L'ambassadeur des Pays-Bas en Indonésie, Rob Swartbo, lors de l'événement Règles de loi d'Indonésie-Pays-Bas et mise à jour de sécurité 2018 à Erasmus Huis, Jakarta, mercredi 17 janvier, a déclaré que les deux pays partagent leurs connaissances en droit matériel et structure juridique parce que l'ADN de la même loi. D'autre côté, les deux pays sont également confrontés à de nouveaux défis communs, tels que la création d'une société inclusive et la réglementation de l'utilisation d'Internet et de la technologie. D'une part, nos deux pays partagent un certain nombre de points communs en matière de droit matériel et de structure juridique. C'est toujours la fortune comme notre ADN juridique commun. D'autre côté, nous finissons des défis similaires. Comment créer des sociétés inclusives? Comment réguler l'utilisation de l'Internet et des médias sociaux ou pour lutter contre la cybercriminalité? Comment réguler le dernier changement technologique? Comment lutter contre le changement climatique et la dégradation de l'environnement? Ou comment gérer la pêche illégale? Les deux pays doivent trouver des réponses aux nouveaux défis. Cependant, le chef de la Cour suprême, Muhammad Hatta Ali, a déclaré qu'avec les racines du même système juridique, la collaboration entre l'Indonésie et les Pays-Bas est importante et stratégique. De plus, il a déclaré qu'un partenariat égal entre l'Indonésie et les Pays-Bas devait être fait pour améliorer la qualité et l'efficacité de l'appareil judiciaire. La France, à travers un institut de recherche, CIRAD, la recherche agricole pour le développement s'intéresse à l'utilisation de l'énergie, de la biomasse et à l'utilisation des tourbières et des déchets agricoles. Pour réaliser cet intérêt, un institut de recherche agricole français travaillant pour le développement durable des zones tropicales et méditerranéennes, en collaboration avec l'Agence indonésienne pour la restauration des tourbières, BRG, et le gouvernement provincial de Sumatra du Sud, ont convenu d'établir une coopération. Le chercheur senior de CIRAD, Jean-Marc Roda et le chef du BRG, Nazir Fouad, ont rencontré le gouverneur du sud de Sumatra, Alex Nourdin, à Gria Agung, jeudi 18 janvier. Lors de cette réunion, Jean-Marc Roda a expliqué que CIRAD a mené des recherches sur l'utilisation potentielle de l'énergie de la biomasse pendant 4 ans au sud de Sumatra. Par ailleurs, le gouverneur Alex Nourdin a déclaré que le gouvernement provincial de Sumatra Sud a bien accepté l'utilisation de l'énergie de biomasse, compte tenu Sumatra Sud possède les tourbières près de 1,4 million d'hectares, dont la plupart n'est pas encore utilisée en optimum. Alex Nourdin estime que la coopération avec les instituts de recherche français apportera de nombreux avantages tant dans les efforts de restauration des tourbières que dans l'amélioration du bien-être des agriculteurs dans le sud de Sumatra. La ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi a rencontré le président Joko Widodo pour discuter des visites d'État dans 5 pays d'Asie du Sud. Selon le projet, le président se rendra à 5 pays la semaine prochaine. Retno Marsudi au palais présidentiel à Jakarta a annoncé ces pays sont Sri Lanka, l'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et l'Afghanistan. Selon elle, la mission qui sera apportée de chaque visite s'est concentrée sur les efforts visant à accroître la coopération bilatérale dans le domaine de l'économie. Retno a affirmé une grande population de certains pays à visiter tels que l'Inde, le Pakistan et le Bangladesh pourrait être l'occasion pour l'Indonésie pour renforcer la coopération dans le domaine de l'économie. Retno Marsudi a ajouté, lors de son séjour en Inde, le président Joko Widodo assistera également au sommet Inde-ASEAN à New Delhi et a aussi reçu une invitation à assister à la commémoration de la journée constitutionnelle de l'Inde. Le gouvernement indonésien, par l'intermédiaire de Pertamina Persero Société Anonyme, a le projet de verser 3 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié aux deux pays d'Asie du Sud, à savoir le Pakistan et le Bangladesh. Cette décision sera discutée plus détaillée lorsque le président Joko Widodo fera une visite de travail à ces pays dans un proche avenir. Le vice-ministre de l'énergie et des ressources minérales Archanda Tahar à Jakarta mercredi a expliqué que chaque pays réserverait l'approvisionnement du gaz naturel liquéfié de Pertamina d'environ 1 à 1,5 million de tonnes par an avec une valeur estimée à 6 milliards de dollars américains. Le contrat d'engagement entre Pertamina avec les deux pays durera 10 ans. Comme cité d'Antara, la politique d'exportation est une continuation de l'accord de mémorandum d'accord signé entre Pertamina et les deux pays. Chers amis, c'était le journal.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le magazine culturel en produisant Teganing, un des instruments de musique typique de Gayo, Aceh. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. La tribu Gayo est l'une des tribus ethniques qui habitent au zooplateau de Gayo en province d'Aceh centrale. Les zones de l'ethnie Gayo comprennent les districts Benar Meriah, Aceh centrale et Gayo Luas. La communauté Gayo, en particulier ceux qui vivent en régions Aceh centrale et Benar Meriah, ont un instrument de frappe traditionnel Apeli Teganing. Langskomang de musique Teganing est faite de bambou avec une longueur de 1 à 1,10 mètres. Le segment de bambou qui peut être utilisé comme un instrument de musique doit être suffisant. Pour la longueur, la ligne médiane est assez grande et vieille. Avant de faire teganer un instrument de musique, le bambou est d'abord trempé pendant plusieurs jours dans le flux d'eau, soit faussé, puis séché au soleil. Le bambou est ensuite perforé, allongé, appelé kekepak, en creusant la coquille extérieure de bambou de façon extensive afin qu'elle serve de chaîne de ficelle de 3 à 4 morceaux et ne devrait pas être déconnectée ou séparée du bambou. Le son de ces 3 cordes peut être ajusté en fonction de leur fonction, comme les cymbales, les calans et les gongs, avec un coin placé pour séparer la corde et le bambou. Teganing est joué en étant frappé avec pegel ou collé à la corde avec la main droite et la main gauche frappant le corps de teganing. Teganing était au passé utilisé par les filles, soit bébérou, des gaillots pour remplir leur temps libre, tout en gardant le riz qui est en train de sécher afin de ne pas être mangé par le poulet ou le pigeon. Mais sur le développement du temps, on rarement voit bébérou jouer teganing en attendant le séchage du riz. Aujourd'hui, l'instrument de musique teganing est joué pour accompagner la danse typique de Gayo. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir. Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir, chers auditeurs. Voici l'émission couleur ayant pour titre Kagati Kolope, le vieux chef volant de l'île Muna, Kendari. Les chefs volants connus du public comme le jeu pour les enfants et les personnes âgées sont généralement faits de papier mince avec une armature rigide qui sont volés dans les airs et reliés avec des cordes ou des fils à la terre ferme ou de liaison. Cependant, les chefs volants de l'île Muna, Kendari, Sulawesi du Sud-Est, sont faits de feuilles. Mais ce chef volant de l'île Muna est appelé Kagati Kolope. Kolope est un nom de feuille utilisé pour la fabrication de ce cerf-volant. Cette kolope est une sorte de feuille de manioc. Le cerf-volant de feuille kolope est en effet légendaire. Selon certaines sources, le chef volant de feuille kolope de Muna est le vieux chef volant le plus ancien du monde. D'après une peinture de la grotte de Sugipatini dans le village de Liang, on dit que les chef volants ou les kagati sont un divertissement pour les agriculteurs de Muna dans le passé. Habituellement, ils volent des chef volants tout en gardant le jardin. En outre, les gens de Muna croient que le cerf-volant sera transformé comme parapluie qui ombrera son propriétaire de la lumière du soleil après leur décès. Actuellement, Kagati Kolopé est difficile à trouver sur l'île de Mouna parce qu'en plus des matières premières difficiles à trouver, la façon de le faire prend aussi beaucoup de temps. Pour faire du kagati, on commence par la collecte de vieilles feuilles de kolopé. Après des quantités suffisantes, les feuilles de kolopé sont fumées de sorte que les feuilles sont flétries et se forment facilement. De plus, les feuilles de la kolopé flétrie ont été séchées au soleil pendant 3 jours. Pour devenir un cerf-volant, la feuille doit être cousue en utilisant une sorte de bâton pour former une feuille en conformité avec une armature préparée. Les feuilles de kolopé sont collées à une armature de bambou et attachées avec des cordes à partir des feuilles d'ananas de la forêt. Bien qu'il soit fabriqué à partir d'ingrédients 100% naturels, kagati kolopé est bien connu à l'étranger. En outre, kagati kolopé a réussi à devenir le premier champion de l'événement organisé en 1997. En 2016, il est devenu une prima donna lors de l'événement de l'Association pour le sport international pour tous, ou TAFISA, à Jakarta. Serviteurs, c'était l'Indonésie en couleur pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Couleurs du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le magazine musical et dans cette édition, nous allons vous présenter des chansons de la province de Jambi. Voici la première chanson intitulée Batang Hari. Voilà la chanson de Susie dont le titre est Batang Hari. Cette chanson parle de la rivière de Batang Hari, la plus longue rivière de Sumatra, qui est une attraction touristique célébrée dans la province de Jambi. Quelques endroits de cette rivière traversent tels que Panyaguan et Tangorajo. L'unicité de cette chanson est ses paroles sous la forme de pantoun du début jusqu'à la fin. La chanson de Jambi suivante que nous allons présenter est Rangkayo Hitam. Rangkayo Hitam est un roi puissant et courageux qui vivait à l'époque du royaume Jambi Malé. Cette époque était sous la domination du royaume de Mataram. La légende de courage et de pouvoir de Rangkayo Hitam est louée dans la chanson Rangkayo Hitam. Bon, chers amis, écoutons maintenant une chanson intitulée Rangkayo Hitam, chantée par Ike Nurjana.
Ibunya dari pagar ruyung
Vous êtes toujours à l'écoute de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta dans la rubrique Magazine culturel. Et cette fois, vous écoutez des chansons de Jambi. La chanson suivante est Gadis Rimbu Bujang. C'est une chanson que nous allons vous présenter. Cette chanson est originaire du district de Tebo et a été créée par Lukman Saï. Elle est souvent chantée en duo parce qu'elle parle d'un jeune homme qui s'intéresse à une fille de Rimbu Bujang. Une autre chanson que nous allons donner est Ketimun Bungkuk. La chanson créée par Yahya Abi raconte d'une personne qui a toujours mal tourné. Il n'est pas seulement pauvre, mais il fait aussi face à divers épreuves et insultes. Mais à la fin des paroles, il y a un message que la roue de la vie tourne toujours. Après la malchance, sûrement la bonne fortune viendra bientôt. Bon, chers amis, écoutons maintenant la dernière chanson intitulée Ketimun Bungkuk. Merci à tous et à bientôt. Thank you. Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'était des chansons indonésiennes. Ainsi se termine l'émission pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. Au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.